Vous écoutez
RMC. RMC, le Mosca.
La Coupe du Monde, donc, passée enfin à la phase à élimination directe. Hier, le Canada a battu l'Afrique du Sud, 1-0, à 3h du matin. C'est l'affiche de ces quarts de finale, parce que c'est vrai que le tableau est très déséquilibré. Hein. Il y a des très beaux matchs sur le papier, d'autres qui sont moins intéressants. Après, il faut que ça se vérifie sur le terrain, évidemment. Mais ce Maroc-Pays-Bas, il est assez alléchant et surtout, il est très indécis. Qui est le favori? Réponse du sélectionneur marocain Mohamed Wahbi et du capitaine néerlandais Virgil van Dijk.
Par rapport au fait d'être favori, pas favori, moi, ça m'est égal. Ce qui va compter, c'est sur le terrain. Qui se voit pas favori ou qui se voit favori, pour nous, ça change rien du tout. Maintenant, c'est sur le terrain qu'il faut le montrer. Les équipes adverses respectent le Maroc. On respecte aussi les Pays-Bas. C'est une grande nation de foot. On a déjà vécu un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde contre le Brésil. Je pense qu'on en vivra encore un demain.
I expect a very, very difficult game.
Je m'attends à un match très très difficile contre une équipe qui a beaucoup de qualité, l'un des meilleurs latéraux droits du monde en ce moment, un avant-centre, Saïd Barry qui est très en forme, qui a fait une très bonne saison, un gardien d'expérience, un bon entraîneur, Brahim Diaz. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Leur milieu défensif qui est en train de percer, donc on s'est bien préparé. J'ai vraiment hâte, ça va être un challenge, c'est le genre de match que tu as envie de jouer.
These are the games you want to be part of. Like I said, it's a knockout, first knockout game.
Alors donc Maroc Pays-Bas, ça pourrait, évidemment on en est loin, mais être l'adversaire de la France en quart de finale, faut encore aller jusque là, parce que c'est vrai que quand l'Argentine joue Curaçao, bah le oui. Maroc se tape les Pays-Bas et inversement, hein, c'est comme ça. Hein. C'est l'injustice du tirage au sort.
Le tableau, il est favorable à l'Argentine.
Très favorable.
Très favorable.
C'est,
très
sur le papier, c'est un boulevard.
Au moins, boulevard. Normalement. Au moins jusqu'en quart de finale. Hein,
Pays-Bas Maroc, 3h du matin, qui jette un œil en direct?
Ah bon. Alors ça c'est une vraie question.
Ah moi j'ai bien envie. Hein. Il faut mal dormir.
Tu mets le réveil. Tu mets le réveil.
Non mais moi je me réveille régulièrement donc je traîne un petit coup.
T'as des soucis toi, c'est pour ça.
Moi je peux regarder.
Ouais. Toi 3h ça passe.
Il a pas de soucis Vincent.
Alors dans les grandes gueules. Dans les grandes gueules ce matin, Alain Marchal, je parle des horaires. Alain Marchal il râlait parce qu'il y a des matchs trop tard. En fait il a pas intégré le concept décalage horaire.
C'est bon.
Quand la Coupe du Monde est en Europe, il y en a d'autres pour qui c'est tard.
Non mais c'est vrai que c'est râlant. Quand tu veux voir un match, tu vois, tu putain, tu
il dis, était limite de dire, mais pourquoi ils ont mis ça à 3h du matin?
3h du matin, il faut tenir, quoi, tu vois, parce que tu dors, quoi, tu vois, ça te bousille.
Ah, journée, quand il fait chaud, tu te réveilles régulièrement, non?
Denis, ouais, ton favori. Quoi,
tu,
favori.
Tu dors, tu te réveilles pas.
Mon favori, ouais. Maroc.
Maroc?
Ouais. Tu sens fort? Très bien.
Ah, moi, je le vois aller très loin, le Maroc.
Ah, ouais.
Ah mais moi aussi, tu vois, c'est le Maroc.
Ah bah oui. Le vainqueur affrontera le Canada.
C'est pas que j'espère, hein, c'est que je pense qu'ils ont les moyens de passer. Hein.
Alors, on zappe la Coupe du Monde. On reste sur le foot puisque le Paris FC a repoussé sa reprise de 8 jours. Il devait reprendre mercredi et finalement ce sera le 9 juillet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a toujours pas d'entraîneur et a priori, eh bien, ce ne sera pas Antoine Comboiré, c'est Daniel Riolo qui nous a alerté là-dessus hier. Fabrice Hawkins confirme et a priori donc les dirigeants du Paris FC ont même déjà reçu des candidats au poste d'entraîneur, notamment Liam Rosenior, l'ancien coach de Strasbourg Chelsea.
C'est... Lui, il viendrait avec 8 mecs, donc ils sont pas trop d'accord, les mecs, parce qu'il faut casquer 8 gosses. Il vient avec une équipe, écoute-moi, c'est les majorettes de la fanfare de Rabastens. Il y en a 8 qui suivent derrière. Donc le président se dit quand même.
Mais c'est curieux, quand même, déjà de.
Curieux qu'ils soient pas entendus.
Mais oui, attention. Tu l'as vu quand même, il boite. Le problème il nous l'a dit la dernière fois.
Oui, mais c'est pas la raison principale. Je pense que, voilà.
A priori, c'est pas lui qui prend la décision.
C'est un choix de tourner la page, de dire, on part avec un entraîneur avec un nouveau staff et puis voilà, j'ai de nouveaux joueurs, mais c'est le
mais
football
c'est
d'aujourd'hui
si mais tard non
ouais. Mais tard et puis ils sont pas entendus, oui il y a un problème entre Antoine et je sais pas, parce qu'à un moment donné Antoine c'était pratiquement certain qu'il y allait,
qu'il restait.
Donc il y a eu un truc qu'on ne maîtrise pas.
C'est bizarre quand même. Il y en a toujours un qui intervient là, qui dit ah non mais moi j'ai un mec. Bon, c'est les agents. Les agents c'est terrible. Hein. C'est comme attention au rugby, ça devient comme ça. Quand t'es dans le truc, après les mecs ils tournent comme ça, ils reviennent tout le temps. C'est les agents qui passent.
Non, mais c'est vrai qu'après Liam Rosenior, bon, moi je suis désolé mais le Paris FC, je sais pas ce qu'ils font. Alors je dis pas qu'il fallait forcément continuer avec Antoine Comboiré, mais Liam Rosenior c'est un mec qui est en échec. C'est-à-dire qu'on l'a vu à Strasbourg, ça a bien démarré, ok, il faisait plutôt du bon boulot. Au niveau supérieur. Il s'est bien vautré. Attention, hein, à Chelsea, il a vraiment, vraiment un passage très compliqué. Moi, je comprends pas.
Non, mais
pourquoi, en fait, parce que ce mec, il a l'image foot anglais, je sais pas, entraîneur anglophone un peu moderne. Belle, ouais. Mais sur le terrain, ce qui compte, c'est ce que tu fais de tes équipes. Le Paris FC. Je suis très étonné.
Mais dans la continuité, pourquoi tu te gardes pas Antoine? C'est surtout ça mon interrogation. Je dis, parce qu'Antoine a fait du bon boulot, il est proche des joueurs, il rassure tout le monde, il apporte une certaine confiance. Et tout d'un coup, tu dis, bon, mais c'est fini, voilà, tu nous as aidé à rester en première division et on le vire. Non, je trouve ça là.
Après, Antoine, tu sais, il était méfiant quand il est venu qu'on l'a interviewé. Il était quand même méfiant.
Il dit, je m'attends à tout, je connais le foot.
Tu sais, quand il était premier, il était premier de la Ligue 1, ils l'ont foutu dehors. Parce que c'est comme ça.
Non, mais c'est le foot aujourd'hui.
Rosignon, je vais te dire, Rosignon, c'est pas frais, quoi. C'est pas frais. Moi, ce serait le PF, comment PFC. Ça s'appelle, le pompe funèbre général. Écoute-moi, ils peuvent, justement, qu'ils démarrent sur une image fraîche avec un mec, toi qui nous sortes un mec, un jeune qui arrive là, pim, poum, pam, qui casse tout, un gueulard, un mec, qui, tu vois, moi, je prends. Voilà, c'est pas frais, Rosignon.
Ils ont l'objectif de recruter Paris FC,
là. Donc
l'entraîneur qui va venir là, va avoir son mot à dire, vous pensez, pour les recrutements?
Normalement, oui, on peut y penser. Mais
si l'entraîneur n'a rien à dire, on va pouletter, c'est la fin.
Normalement, les entraîneurs n'ont pas le même pouvoir sur la politique sportive.
Tu vois ce que je vais te dire, Pierrot. Fonctionner différemment. Tu arrives à Paris avec un autre club, une autre ambition, avec d'autres mecs, avec un mec. Tu vois, tu fonctionnes différemment. Tu essayes de créer une espèce de style en allant chercher un entraîneur, en allant chercher des joueurs, en t'impliquant. Là, j'ai l'impression que c'est faux dernier moment, tu vois, pour les mecs qui sont au Cap Ferré.
Non, pour eux,
c'est vrai.
Pour eux, c'est frais, parce que c'est un mec qui a 40 ans, c'est un mec qui a
pas de. On dirait mieux Dendon.
Mais il y a 40 ans, Rosignon, je pense que tu confonds.
Mais 40 ans, il y en a que 40 ans qui en paraissent 80 heures de toi.
Surtout, ce qui me déçoit, c'est par rapport à leur discours. Leur discours qui, au départ, dit on se clone, on va y aller petit à petit, on va faire dans la continuité, on va avoir une identité.
Et puis, il y a un problème quand même d'opération du genou, on en a parlé avec Antoine.
Attention.
Problème aussi financier, forcément.
Non, mais ce qu'on sait, c'est le club qui veut se séparer de Comboiré.
En tout cas, c'est pas une raison médicale, Pierrot.
La rotule en plastique.
On passe au championnat de France de natation. L'attraction, évidemment, c'est la présence à Saint-Etienne de Léon Marchand. Nous sommes en direct avec Julien Richard. Salut Julien.
Salut tout le monde.
Alors, manque de bol, Léon Marchand est forfait sur 200 mètres bras. C'est assez rare d'être blessé en natation, mais ça arrive. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite de la compétition? Parce qu'il restait pas mal de course pour Léon Marchand.
Oui, en fait, Léon Marchand, il a ressenti une douleur aux adducteurs pendant sa série ce matin du 200 mètres brasse. Tu sais, la brasse, il y a un mouvement de ciseaux avec les jambes et ça étire les adducteurs.
Comme une grenouille.
Exactement, comme une grenouille. Mais il a donc décidé de couper son effort à 50 mètres de la fin de sa série. Alors, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de le voir faire en série pour gérer justement son effort. Mais là, il se fait déposer dans la dernière longueur par deux concurrents. Il termine 9e temps seulement des séries. Alors, un forfait lui permet de rentrer en finale, mais très rapidement. Lui, son forfait est annoncé pour la finale du soir. Pas plus de précision pour le moment sur la nature, la gravité de cette douleur. Il faudra attendre certainement demain pour passer des examens. La suite de son programme sur ces championnats de France, en tout cas, elle est en suspens. Et, en plus du 200 mètres brasse, il lui restait 4 autres courses jusqu'à jeudi. Samedi dernier, Léon Marchand, il avait frappé fort sur le 400 mètres 4 nage avec la meilleure performance mondiale de l'année. Ces championnats de France, ils sont qualificatifs pour les championnats d'Europe début août à Paris. Mais ce forfait n'aura pas d'impact sur sa participation, même s'il ne nageait plus de la semaine. Parce qu'en fait, il est déjà qualifié sur le 400 mètres 4 nage. Donc, il peut quand même être aligné sur les épreuves de son choix. Alors, il faut quand même noter qu'il ne faut pas qu'il y ait 4 places prises sur ces épreuves-là à l'issue de ces championnats de France.
Ouais, parce qu'en fait, il prendrait la place.
S'il ne prend pas la place de quelqu'un, il peut s'aligner.
Il n'y a aucune des épreuves sur laquelle on a 4 Français capables de se qualifier.
Non,
il n'y en a aucune.
200 mètres brasse, 200 mètres papillon.
Bon, très bien.
C'est pas facile.
La brasse, c'est la nage la plus sûre, c'est ça, Julien?
Tactiquement, physiquement, c'est dingue, parce qu'après, quand t'es à l'école, comme ça, que tu vas à l'école et t'apprends à nager, tu sais, t'apprends la brasse, alors que c'est dur, la brasse, non?
T'apprends
la nage indienne, c'est plus facile.
Toi, tu fais la brasse à la Pierre Mondi. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef?
Non, c'est la nage indienne.
La nage indienne.
Pierre Mondi, c'est la nage indienne.
Julien Richard, donc en direct de Saint-Etienne pour les championnats de France de natation, forfait de Léon Marchand, mais pas de remise en question sur sa partie. Participation aux championnats d'Europe à Paris, ça sera un des événements de l'été, évidemment. On va passer au Tour de France. Alors, CMA, CGM Décathlon a dévoilé son équipe, la composition de son équipe pour épauler Paul Sexas sur ce tour qui démarre samedi à Barcelone. On est en direct avec Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves.
Salut Pierre, salut Vincent, salut à tous.
Alors, question, bonjour. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette compo et qu'est-ce que ça dit des ambitions de Paul Sexas?
Bah écoute, ils sont 8, mais ce ne sont pas les majorettes de Rabastens, apparemment, comme aurait dit Vincent. Mais il y a Paul Sexas, effectivement, bon. Malgré sa chute à la veille de l'arrivée du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 15 jours. Bon, on avait appris jeudi dernier qu'il était en reconnaissance du col du Galibier, donc on n'avait pas trop d'inquiétude. Un Galibier qui sera au menu de cette édition du Tour de France. Il était d'ailleurs aux côtés de Nicolas Prodhomme, Aurélien Paré-Peintre et Mathieu Ricciatello qui seront avec lui sur la grande boucle. Mais lors de cette sortie, il y avait également l'Autrichien Gregor Mühlberger. Or, ce dernier n'est pas dans cette composition finale d'équipe, pas plus que Stéphane Bissecker, parce que ces derniers jours, il y a eu des hésitations et un choix a été fait. Et il y aura finalement une petite cellule autour du sprinter néerlandais Olaf Coy.
Ah.
Qui a été longtemps absent en raison d'un virus en début de saison et il sera accompagné de Sisbol, son poisson pilote. Donc il y aura un leader avec Paul Sexas et puis un sprinter pour jouer à la fois le général et les victoires d'étape. Et puis il y a Tish Benot et Dan Hoole qui complètent l'effectif. Bon, si la question c'est est-ce que Paul Sexas va être à la hauteur de Pogacar et Vingegaard, j'ai pas la réponse, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera samedi le plus jeune coureur à prendre le départ du Tour depuis 1937. Donc ça nous laisse quand même le temps de rêver.
Non, mais ouais. Ça veut dire aussi que Décathlon CMA CGM ne met pas tous ses œufs dans le même panier.
Exactement.
Qu'il y a quand même deux, trois victoires d'étape au sprint qui sont au moins tentées.
Prenables. Hein.
Et qu'on n'a pas mis sept coureurs à disposition de Paul Sexas.
De Paul Sexas, effectivement. Okay. Parce que c'est encore une carte sur l'avenir et qu'il est là aussi pour apprendre.
Et Tish Benoot joue le classement général, Pierre-Yves?
Ah non, il va être là en lieutenant pour aider avant tout Paul Sexas.
D'accord. Bah
alors moi j'ai une question. Donc on sait que l'équipe que construit CMA CGM autour de Paul Sexas, c'est aussi pour éventuellement poser des problèmes à UAE. Pogacar, eux j'ai l'impression, enfin j'ai lu que l'équipe qui est construite autour de Pogacar, eux c'est tout pour le maillot jaune.
Ah oui.
Ils dirent que le ils reste ont peur de ils personne, s'en fichent.
Hein. Oui, de toute façon, les victoires d'étape, elles viendront d'elles-mêmes avec Pogacar. Hein.
Oui.
Ils auront tout, eux. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude du côté de Decathlon, CMA, CGM.
C'est les Del Toro, Yates, ils y sont tous. Hein.
Ils peuvent faire un et deux. Hein, si, c'est pas impossible. Hein. Del Toro peut très bien être sur le podium avec Pogacar.
Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci, le Tour de France à suivre en direct sur RMC à partir de samedi en intégralité, bien entendu. On va retourner à Wimbledon. Ce premier tour, il est compliqué pour Yannick Sinner face à Kecmanovic, Eric Salio.
Ouais, c'est très très compliqué pour Yannick Sinner. Un set partout donc face au Serbe. 6-5 pour Kecmanovic dans la troisième manche. C'est Sinner qui va servir. Et puis je viens de découvrir sur les réseaux sociaux qu'il y a une marque de sang à l'intérieur de la chaussure de Yannick Sinner. Donc peut-être il a une grosse ampoule, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est pas au mieux. Déjà, son premier set n'était pas bon. Mais vraiment, il a du mal à trouver ses marques sur le gazon immaculé du center court.
Très bien, on continue de suivre cette rencontre avec toi. Eric,